T'es Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Donc je le disais, ces 35 pays de la coalition des volontaires ont donc validé cette déclaration de Paris. Que retenez-vous, Nicolas Tenzer?
Écoutez, d'abord, il y a un pays, semble-t-il, qui n'a pas signé quand même. Ce sont les États-Unis, ce n'est pas le moindre. Donc, voyons, soyons très prudents à ce stade. Malgré tout, ce qu'on a pu voir là, en tout cas du côté européen, mais il faut ajouter bien sûr aussi le Canada, le Japon, etc., c'est évidemment un signal d'unité claire. Unité claire de soutien à l'Ukraine, une volonté sur la durée, évidemment, de dire que l'Ukraine ne doit pas disparaître, que bien sûr, elle a le droit de se défendre et qu'il n'est pas question que demain, elle puisse être à nouveau, s'il y avait la paix, attaquée par la Russie comme elle l'a été depuis maintenant bientôt 12 ans, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est à 2014 quand même que cette guerre a commencé, même si elle n'est devenue une guerre totale qu'à partir de 2022. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup de limites. D'abord, on sait que les dits volontaires, c'est-à-dire concrètement des troupes armées d'un certain nombre de pays qui en font partie, notamment la France, le Royaume-Uni, d'autres aussi, ne viendront que s'il y a un accord de paix ou au moins un cessez-le-feu. Or, pour l'instant, la Russie n'a montré aucun appétit pour s'engager dans cette voie. Au contraire, elle continue d'assaillir l'Ukraine et de commettre tous les crimes de guerre contre l'humanité et de génocide qu'elle a commis depuis maintenant 3 ans et demi au moins. Donc c'est quand même une limite, c'est-à-dire que il y aura peut-être des garanties, mais le jour où, et ce jour-là, n'est quand même pas vraiment prêt de venir. Et d'ailleurs, je crois que la Russie n'a aucune intention de faire la paix. Elle veut évidemment subjuguer complètement l'Ukraine, donc c'est quand même un grand si.
C'était justement l'objet de ma prochaine question. En voyant cette alliance qui reprend 35 pays, bon, vous l'avez rappelé, sans les États-Unis, est-ce que ça pourrait mettre une certaine pression sur la Russie ou Vladimir Poutine n'en a rien à faire?
Écoutez, je crains que Vladimir Poutine n'en ait rien à faire, que lui considère qu'il veut complètement gagner la guerre, il considère que de toute manière, in fine, même si de temps en temps Trump manifeste, il a refait dernièrement un certain mécontentement à l'égard de Poutine, que malgré tout les États-Unis seront de son côté, et que finalement il n'y a pas de danger majeur. Donc c'est ça le vrai problème. Et puis de toute manière, même si un jour vous aviez une sorte de pseudo-accord de paix comme les Américains notamment l'ont laissé entendre, on sait que Poutine profiterait de ce répit pour se réarmer et pour demain attaquer l'Ukraine, voire un certain nombre de pays européens. D'ailleurs, imaginez si vous aviez un soi-disant accord de paix avec l'Ukraine qui serait obligée de céder des territoires. Ces territoires seraient en quelque sorte une sorte de base arrière pour les troupes russes. On sait déjà d'ailleurs que dans les territoires actuellement occupés, la Russie commence à enrôler des jeunes Ukrainiens. Il y en aura plus dans 2 ans, 3 ans, qui pourraient servir de chair à canon pour combattre leurs frères et sœurs ukrainiens et demain les Européens. Donc, en fait, tant qu'une partie de l'Ukraine est occupée, ce qui est le cas aujourd'hui, les dites garanties de sécurité sont quand même extraordinairement limitées. Et puis, quand même, je veux dire, les Européens aujourd'hui n'ont pas accepté de s'engager directement, militairement, dans la défense de l'Ukraine contre la Russie. Qui dit que demain, dans des circonstances beaucoup plus périlleuses, en particulier si la Russie se réarme, ils le feront. Et je crois que c'est vraiment le problème majeur aujourd'hui de cette coalition des volontaires.
Oui. Lorsqu'on avait eu vent de ce fameux plan de paix en 20 points que le président américain Donald Trump avait soumis, vous étiez passé sur notre antenne et vous appeliez à ce que l'Europe, en quelque sorte, se réveille. On a vraiment là l'impression que c'est l'Europe qui est à la baguette et notamment le président français Emmanuel Macron dans cette coalition.
Oui, voilà, disons que ça, c'est le disons qu'il y a toujours dans ce genre d'affaires, il y a une sorte de verre à moitié vide et à moitié plein. Le côté plein, effectivement, du verre, c'est que les Européens ont repris l'initiative. Et ça, c'est une bonne chose et il faut rendre hommage à Emmanuel Macron, mais aussi aux autres, d'avoir tenu bon, organisé et de ne pas s'être fait dicter toutes les conditions par les Américains. Là où il y a effectivement un verre à moitié vide, c'est que pour l'instant, vous n'avez avait pas d'action très directe des Européens. Il y a certes des livraisons d'armes qui continuent, heureusement, mais elles sont quand même très insuffisantes pour que l'Ukraine puisse non seulement protéger l'intégralité de sa population civile, mais aussi repousser l'ennemi. Et ça, c'est quand même un premier facteur. Que deuxièmement, alors que beaucoup de personnes, y compris des hauts chefs militaires, avaient lancé l'idée d'une zone de non-survol, c'est-à-dire pour protéger le ciel ukrainien, c'est-à-dire concrètement d'abord les civils. Évidemment, il n'y a du tout d'action qui a été décidée maintenant dans ce sens. Et c'est quand même aujourd'hui aussi que l'Ukraine a besoin de ses garanties de sécurité. Ce n'est pas demain, puisque, encore une fois, je l'ai tout à l'heure, la perspective d'un accord de paix ou même de cessez-le-feu est quand même extrêmement certaine.
Oui, alors autre organe, c'est l'OTAN. Est-ce que l'OTAN a à voir quelque chose avec cette coalition des volontaires ou bien c'est vraiment pas du tout la même chose?
Alors, ce n'est pas la même, puisque là, ce sont des pays sur la base d'un volontariat, c'est-à-dire des pays, et c'est pas dans le cadre de l'OTAN que les choses se déroulent. Maintenant, bien sûr, les pays volontaires qui sont membres de l'OTAN. Il n'y en a pas d'autres sauf le Japon ou la Corée du Sud ou l'Australie, évidemment bénéficieront de la coordination opérationnelle au sein de l'OTAN. C'est d'ailleurs peut-être aussi d'ailleurs un des aspects finalement assez positifs de cette réunion, c'est que vous avez les hauts chefs militaires qui très concrètement, sur des plans qui ne peuvent évidemment pas être divulgués, se sont mis d'accord, ont progressé, ont travaillé ensemble, et ça c'est certainement une bonne chose. Et puis vous avez quand même les incertitudes sur l'OTAN avec les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont véritablement, s'ils devait à un moment être décidé d'activer l'article 5 de l'OTAN, alors l'Ukraine ne peut pas le faire puisqu'elle n'est pas encore membre de l'OTAN. Est-ce que les États-Unis feraient alors que parallèlement vous les...
Nous avons un petit souci de connexion avec vous, Nicolas Tenzer. Nicolas Tenzer, vous nous entendez?
Je vous entends.
Ah voilà, on vous a récupéré. Vous nous parliez du rôle des États-Unis.
Oui, je disais effectivement, les États-Unis peuvent effectivement être quand même un allié de plus en plus problématique avec Trump, puisque est-ce qu'il véritablement il déciderait d'intervenir si un des autres pays européens membres de l'OTAN était attaqué? Et évidemment, on voit les États-Unis en même temps menacer le Danemark, qui est un membre de l'OTAN, sur l'histoire du Groenland. Donc c'est quand même extrêmement problématique.
Oui. Alors, dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est le rôle de la Belgique. Alors, la dernière fois que ces chefs d'État s'étaient réunis, c'était lors de la réunion des dirigeants européens. Il y avait eu la fameuse affaire des avoirs russes où la Belgique était un peu seule contre toutes. Aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle prendra ses responsabilités au sein de cette coalition et qu'elle enverra des capacités en Ukraine si un accord de paix venait à mettre un terme à la guerre. Est-ce que Bart De Wever, le premier ministre belge, a un peu redoré ses galons vis-à-vis de ses partenaires?
Oui, d'une certaine manière, mais encore une fois, comme les perspectives sont très reculées, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça ne coûte rien. Maintenant, évidemment, il faut certainement saluer effectivement cette volonté de Bart De Wever et de la Belgique de s'engager dans la coalition des volontaires. C'est vrai que l'épisode du Conseil européen des 18 et 19 décembre a laissé quand même un certain nombre de traces. Mais maintenant, encore une fois, tous les engagements qu'on fait aujourd'hui pour demain et pour un demain très incertain, voilà, valent ce qu'ils valent.
Nicolas Tenzer, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique et fin de la politique des grandes puissances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
À bientôt, merci.